La dernière publication que nous avons faite avec François Pursaigle, cette sociologie des mondes agricoles, et je pense que devant des historiens, vous rendre compte finalement de ce livre et de l'histoire de ce livre. Ce livre a plusieurs dimensions, plusieurs raisons d'être, et qu'il est d'une certaine façon quand même une sorte de récapitulation et de point d'étape sur l'état de la discipline. Alors, ce livre, il a une dimension intergénérationnelle puisque nous l'avons pensé, rédigé à deux avec François Pursaigle, donc, qui est maître de conférence à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, à l'ENSAT de Toulouse, en sociologie. Qui a soutenu son HDR il y a maintenant un an sur précisément ce thème de la sociologie des mondes agricoles. Et moi-même, qui étais l'élève de Mindras, ça a été rappelé. Et d'une certaine façon, ce livre est un peu l'histoire de trois générations, puisqu'il est une récapitulation des travaux de Mindras. Il est d'ailleurs dédié à Mindras. Il est une récapitulation des travaux de ma génération et il est aussi une présentation des travaux de la génération actuelle, des jeunes chercheurs, doctorants, maîtres de conférences, qui arrivent sur la scène. Et cette perspective intergénérationnelle m'intéressait pour essayer finalement de construire une transmission. Deuxième raison d'être de ce livre, il se trouve que Mindras avait rédigé un manuel de sociologie rurale qui s'appelait Société paysanne, qui était paru en 73 ou 74, que ce livre était épuisé et que la maison Armand Collin et surtout les deux directeurs, Patrick Le Gallès et Marco Berti, les directeurs de la collection U Sociologie voulaient absolument republier un manuel de sociologie rurale et qu'ils m'avaient demandé de le rédiger. Et ça me paraissait le moment de le faire. Pourquoi le moment de le faire? Parce que nous étions dans une situation. Bon, un livre comme ça, évidemment, prend du temps un petit peu à se maturer, même si nous l'avons écrit en un an exactement, mais il se pense sur 5 ou 6 ans. Il y avait quand même une désaffection à l'égard des questions agricoles et rurales dans la communauté des sociologues. Et il me paraissait important de récapituler cette histoire et de montrer en tout cas son actualité. Donc ça, c'est les aspects, je dirais, un petit peu factuels. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil normand, puisque la couverture, qui est cette fresque de Fernand Léger, la paysanne, est une fresque qui est installée sur le pignon de la ferme natale de Fernand Léger à Lisors, dans le Pays d'Auge. C'est d'après une gouache de Fernand Léger. Et Fernand Léger n'a pas beaucoup, beaucoup travaillé sur le monde agricole, mais il a proposé cette très belle fresque. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Au fond, je pense que la sociologie rurale, sur les 50 dernières années, s'est posée trois, quatre grandes questions. La première question, elle a été portée par Henri Mindras au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il est assez intéressant de comprendre dans quelles conditions tout ça s'est construit. Vous savez que la sociologie était, bien que nous ayons eu en France quelques grandes chaires de sociologie et quelques pères fondateurs, la sociologie s'est véritablement diffusée à l'université après la Seconde Guerre mondiale. Et les premiers laboratoires de sociologie au CNRS n'ont été créés que dans les années 53-54, avec une vision qui était une vision assez simple, hein, que Mindras raconte très bien dans Les Mémoires d'un mandarin, paru chez Actes Sud. le mandarin de l'après-guerre, c'était Georges Gurvitch, qui a publié ce grand traité de sociologie. Et les jeunes chercheurs de ce moment-là s'appelaient Crozier, s'appelaient Touraine, s'appelaient Mindras, s'appelaient Isambert. Et Gurvitch avait réparti les grands secteurs de la société. Il avait dit à Touraine, vous allez vous occuper des ouvriers. À Crozier, vous allez vous occuper de l'État, et c'est devenu la bureaucratie. Alors Mindras hésitait entre l'armée et les paysans. Il dit, mais finalement, vous avez votre château dans le Rouergue, les paysans, c'est pas trop loin. Vous allez vous occuper des paysans. Et puis Isambert, il dit, faut vous occuper de la religion. Et ainsi se sont constitués les premiers centres de recherche, vous voyez, sur des grands secteurs de segmentation de la société. Et puis, un peu plus tard, à Lancelot, il a confié la sociologie politique. Bon. Alors, s'agissant de la sociologie rurale, donc Mindras s'est mis au travail, et la question qui était posée, elle était assez simple, elle était quelle est la spécificité de la place des paysans dans la société française, ayant conscience que cette société était en train de basculer, était en train de se moderniser. Les débats qui avaient cours à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, étaient vraiment les débats sur la modernisation et la question de savoir comment moderniser enfin l'agriculture française, qui était déficitaire, qui n'assurait pas la couverture alimentaire du pays, qui représentait encore 35% de la population active agricole. Et les premières commissions du plan, qui se réunissaient depuis 1947, insistaient beaucoup sur la nécessité de moderniser l'agriculture, d'augmenter la productivité du travail en agriculture, pour libérer les bras, permettre à l'industrie de se développer. Et tout le monde, et depuis les rapports, surtout les rapports Rueff-Armand qui sont déployés à ce moment-là, tout le monde avançait l'hypothèse que pour développer notre industrie, pour moderniser le pays, il fallait commencer par la modernisation de l'agriculture. Et donc Mindras a pressenti qu'il se passait quelque chose autour de ça, qui était aussi porteur de drames, qui était porteur d'éclatements, et qu'il fallait comprendre en profondeur ce qu'était ce monde paysan, pour parler véritablement des paysans. Alors la surprise dans cette affaire, c'est que, au fond, Mindras est parti à la recherche du paysan, et il a trouvé le village. Et l'apport de Mindras dans la compréhension des sociétés paysannes, enfin des paysans, ça a été de mettre en évidence le fait que ça n'était pas les paysans qui faisaient la communauté, c'est la communauté qui faisait les paysans. C'était le fait d'appartenir à une communauté villageoise. Et ça, c'est un retournement de perspective qui est extrêmement importante. C'est que on part du fait social, du fait communautaire, transformé en fait villageois selon les sociétés, mais avec une hypothèse très forte que c'est la communauté qui fait le paysan. C'est cette appartenance communautaire. C'est le fait d'être lié à un espace social qui est un espace d'interconnaissance, qui est un espace de lien, de parentèle et de clientèle extrêmement fort, qui est un espace clos, un espace territorial clos, et d'être dans une communauté dans une société qui est elle-même incluse dans une société englobante, voire une société dominante. Donc, dans cette perspective, les sociologues ruraux vont essayer de construire des typologies pour arriver à bien caractériser ce que sont les paysans Et ils vont notamment aller à la recherche d'autres travaux, notamment des ethnologues. Et il y a un ethnologue qui a beaucoup inspiré l'école française, c'est Robert Redfield de l'école de Chicago, qui avait développé lui-même une typologie en trilogie autour du sauvage, du paysan et de l'agriculteur. Et avec une sorte de construction évolutive entre le sauvage, non pas de jugement de valeur, mais d'évolution, de transformation entre des sociétés sauvages qui étaient des sociétés fermées elles-mêmes, qui se pensent comme le centre du monde, qui se pensent comme le monde, qui ont peu ou pas de relations avec l'extérieur, à la différence des sociétés paysannes, qui certes sont des sociétés closes, mais qui sont des sociétés, encore une fois, englobées et qui sont des sociétés qui ont une économie qui est une économie fermée, mais pas totalement fermée, qui ont quand même des échanges, et qui sont des sociétés lentes, qui sont des sociétés de reproduction des codes, de reproduction des modes, des sociétés dans lesquelles, notamment, les rôles affectés par le sexe, par l'âge, sont encore très, très prépondérants, à la différence des agriculteurs qui ne constituent plus une matrice civilisationnelle, à la différence des communautés paysannes qui sont une matrice civilisationnelle, des agriculteurs qui deviennent un groupe social parmi d'autres groupes sociaux dans une société qui a aboli les frontières des communautés villageoises pour être une société globale. Donc cette trilogie a beaucoup été au travail et a notamment permis à Mindras de comprendre et de rendre compte de ce qu'il a appelé, qui était sa grande thèse, la fin des paysans, c'est-à-dire comment, sous le coup à la fois de la modernisation technique, des transformations techniques, de l'exode rural, de l'éducation, de la formation, de la diffusion de l'information. On a assisté à la fin des paysans, c'est-à-dire non pas la disparition de l'agriculture, non pas la disparition des villages, mais la transformation du paysan, encore une fois, comme individu appartenant à une communauté, à un agriculteur, c'est-à-dire un agent professionnel d'une catégorie, enfin d'un secteur économique, avec certes ses particularités, ses particularismes, mais ne se distinguant pas et ne se coupant pas du reste de la société. Il y a eu beaucoup de malentendus sur la fin des paysans, parce qu'effectivement, la fin des paysans était compris dans un double sens, qui était celui de l'exode et de la diminution, puisque vous savez qu'en 50 ans, on est passé de plus du quart de la population, plus du tiers de la population active, à moins de 5% de la population active. Donc il y a bien eu une diminution en nombre. Mais ce sur quoi Mindras voulait surtout attirer l'attention, ce n'était pas tant cette diminution que cette transformation culturelle, économique, sociale, politique, dans ses modes de vie, dans ses modes d'appartenance du monde agricole. Donc, alors paradoxalement, au moment où, en quelque sorte, la fin des paysans était une façon de rendre compte de la fin des civilisations paysannes en Europe, le terme de paysan a ressurgi dans le vocabulaire, notamment dans le vocabulaire syndical, dans le vocabulaire politique, comme revendication identitaire et avec des adhérences nostalgiques, c'est clair, autour de ces modes civilisationnels. Alors, ce qui est, ça a été la première question qui a été posée. Il faut bien rendre, ici faire une petite incise, sur le fait que, en retravaillant sur tout cet itinéraire, j'ai pu constater à quel point la sociologie rurale française, l'école française de sociologie rurale, avait beaucoup plus emprunté aux historiens, aux géographes, aux ethnologues, et surtout aux ethnologues étrangers, américains notamment, et à quelques influences étrangères très très marquantes, notamment les économistes russes autour de Tchaïanov. Donc cette sociologie, c'est tout à fait intéressant comme histoire intellectuelle. Elle s'est beaucoup plus construite dans l'interdisciplinarité qu'elle ne s'est construite au sein de la discipline. C'est tout à fait frappant. Les historiens, alors notamment les médiévistes, nous ont beaucoup plus aidé à comprendre comment s'étaient construites ces civilisations paysannes. Les ethnologues nous ont appris comment ces civilisations paysannes se distinguaient dans les sociétés précapitalistes des sociétés dites sauvages. Les économistes nous ont appris en quoi ces civilisations paysannes avaient des systèmes économiques propres, singuliers, qui les différenciaient à travers ce qu'ils ont appelé, notamment chez les marxistes, la petite production marchande, du système capitaliste dominant. Les géographes nous ont appris à quel point les différenciations étaient infinies dans ces sociétés paysannes. Et d'ailleurs, nous avons eu l'honneur, François et moi-même, d'être distingués par la société française de géographie, donc c'était une sorte d'hommage tout à fait inattendu, mais qui était finalement la reconnaissance du fait que les sociologues ruraux avaient une dette et une reconnaissance forte à l'égard de la géographie comme à l'égard de l'histoire. Et ceci d'ailleurs dans notre formation était extrêmement important. Je pense lorsque nous étions en troisième cycle, nous lisions autant d'histoire que de sociologie. C'était tout à fait clair. Donc ça, c'est aussi pour la construction de la discipline. Alors le deuxième point important, c'est que malgré tout, une fois signée la fin des paysans, au sens de la fin des civilisations paysannes, restait la question agricole. Et il ne suffisait pas de dire, comme le disait quand même un peu rapidement Mindras, que finalement le nouvel âge de l'agriculture était l'âge entrepreneurial, finalement, qui rejoignait le paradigme de l'entreprise, restait quand même, que ce soit en France, mais dans toutes les sociétés, qu'elles soient en décollage ou qu'elles soient très développées, comme les États-Unis, le Canada, le Japon, restait quand même la question agricole au sens du positionnement du groupe des agriculteurs dans ces sociétés. Alors, de ce point de vue-là, la France est un laboratoire absolument extraordinaire, parce que c'est certainement en France, je crois pouvoir dire, en tout cas, je fais l'hypothèse, avec quand même quelques éléments pour l'avancer, c'est en France que se pose de la façon la plus aiguë la question de l'insertion des mondes agricoles, parce qu'ils sont plus nombreux, au sein d'une société moderne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous partons d'un paradoxe, c'est que un double paradoxe dont nous avons essayé de rendre compte, et au fond, si vous voulez, avec François Pursec, c'est l'étape suivante des travaux qui ont été ceux de Mindras et de son équipe autour de Jolivet, autour de Nicole Esner, autour du Glamarche, enfin, donc je ne peux pas rendre compte là, d'une façon trop brève. Mais ce qui me frappe, c'est qu'une fois qu'on a dit, une fois qu'on a avancé la fin des paysans, et une fois qu'on a reconnu le fait qu'ils n'ont jamais été aussi peu nombreux, nous constatons deux choses. C'est que moins ils sont nombreux, plus ils sont éclatés. En d'autres termes, moins ils sont homogènes. L'hétérogénéité est à l'œuvre dans ce groupe social ultra-minoritaire. Et plus ils sont hétérogènes et plus ils sont repérables. C'est quand même... vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère qu'on se comprend. Il y en a de moins en moins, 2% de population active à peine. Enfin, si on prend les chefs d'exploitation, c'est moins de 1%. Hein? Moins de 1%. Ils sont de plus en plus hétérogènes, et là, nous avons distingué avec François Purcell une tripolarité de la réorganisation des modes d'organisation du travail en agriculture. Et bien qu'ils soient de plus en plus hétérogènes dans au mode d'organisation du travail et de la production, sur le plan idéologique, sur le plan des comportements, sur le plan des attitudes politiques, et y compris du comportement électoral, ils sont de plus en plus homogènes et de plus en plus repérables. Vous voyez ce mouvement dont il faut essayer de rendre compte. Donc c'est à ce deuxième temps auquel nous sommes attelés. Alors, et là, les historiens, à nouveau, nous ont été extrêmement utiles pour comprendre la construction de l'identité agricole dans la société française. Alors, ceci vaut pour la société française, mais quand on fait ensuite des comparaisons internationales avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, avec le Brésil pour penser, parce qu'il y a eu des travaux, mais après ceci pour toute l'Europe, on peut trouver une matrice qui permette de comprendre ce dispositif et ce que nous avons appelé cet isola repérable. Pourquoi est-ce que la France est à ce point un cas d'école extrêmement intéressant pour comprendre ça? Eh bien, et là, la comparaison avec la Grande-Bretagne est très, très intéressante, c'est que nous comprenons à travers notamment les grandes thèses des historiens, je pense à tout ce qui a été fait, enfin les thèses à la Leroy Ladurie, à la Goubert, notamment, qui nous ont beaucoup marqués, on comprend comment, à partir de la Renaissance, avec le mouvement très, très provincial à l'époque de la construction de la France, de la production de la richesse, comment s'est construite l'opposition ville-campagne dans notre pays et comment les campagnes ont toujours été pensées à travers quand même les temps modernes et la période contemporaine comme le lieu de la production de la richesse, à l'opposition de la ville qui est le lieu du pouvoir, le lieu de la dépense, le lieu de la culture, de l'art. Il y a une opposition qui est très très fortement marquée et qui va notamment se cristalliser d'une façon très très intéressante avec la Troisième République. Et là, le tournant de la Troisième République est un tournant qui va laisser des traces tout au long du XXe siècle dans la construction politique du monde agricole dans la société française. Je rappelle au passage l'histoire tout à fait passionnante, mais que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui est quand même le moment 1870-1875, qui est un moment absolument catastrophique pour la France, avec le désastre de Sedan, l'humiliation profonde, le désir de revanche, la montée du mouvement ouvrier la Commune de Paris, l'instabilité politique totale, les hésitations de MacMahon, les dernières grandes crises climatiques, enfin pas les dernières grandes, les grandes crises climatiques qui entraînent les dernières disettes. Je vous rappelle que c'est quand même dans cette décennie 70-80 que l'on connaît encore des disettes dans ce pays. Et puis la grande question du régime, de savoir est-ce que, presque un siècle après 1789, la France va enfin entrer en République ou va revenir entre l'Empire ou un retour légitimiste. La personnalité symbolique de ces hésitations, c'est bien sûr MacMahon. Et le contrepoint de MacMahon dans cette affaire, c'est Gambetta. C'est pas Méline. C'est d'abord Gambetta. Et c'est Gambetta qui construit le projet républicain sur les paysans. Gambetta a une intuition qui est la suivante. C'est que la montée du mouvement ouvrier est forte et irréversible et incontrôlable par les républicains. Et que si on veut installer la République dans ce pays, il faut se tourner vers les paysans, ce qui n'allait pas du tout de soi, puisque les paysans étaient réputés comme des conservateurs, comme des monarchistes, et comme allant retarder encore l'avènement de la République. Et je vous renvoie à un très grand discours de Gambetta à l'Assemblée nationale 1874-75. « Faisons chausser aux paysans les sabots de la République. Lorsqu'ils les auront chaussés, la République sera invincible. » Et donc Gambetta ramène les républicains, convainc les républicains qu'il faut, presque un siècle après 1789, faire bénéficier l'élite paysanne, ce que l'on appelait les laboureurs, ceux qui avaient déjà acquis un petit lopin ou qui espéraient en acquérir un, d'accéder à la propriété foncière, de prendre leur revanche sur la propriété aristocratique ou d'église, et de partager enfin cette terre qui allait leur donner la sécurité, le statut social, la stabilité, la reconnaissance. Bref, si la République fait d'eux des propriétaires, elle fera d'eux des républicains. L'équation était assez simple. Et c'est dans cet esprit que Gambetta invente le ministère de l'Agriculture. Il l'invente en 1881. Et il faut comprendre qu'il l'invente sur le mode du ministère des colonies, c'est-à-dire d'un ministère qui va s'occuper pas seulement de production, mais aussi d'une population, mais aussi d'éducation, mais aussi de problèmes sociaux et de sécurité sociale, mais aussi de relations internationales. Donc il va faire un appart. C'est très subtil comme stratégie politique. C'est-à-dire que pour les faire rentrer dans la République, il les met à part. Et il les dispute âprement aux légitimistes. Alors cette dispute, cette querelle des deux Frances qu'on retrouve dans tous les villages, va se traduire par une banque de républicaine, une banque monarchiste, des coopératives de droite, des coopératives de gauche. Il n'y a qu'une mutualité sociale agricole, mais il y a des écoles des écoles de droite, des écoles enfin, républicaines et religieuses. Bon, bref, tout ça se duplique, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette bagarre n'est pas une bagarre sur la place à donner aux paysans dans la société française. Tout le monde est d'accord pour leur donner la première place. Et donc, il y a un processus, si vous voulez, d'élection, hein, au sens weberien du terme, en direction de ce groupe social pour en faire le socle de la nation, de la patrie, de la République. Mais cette élection se fait sous domination. Et on retrouve cette ambivalence complète dans ces sociétés paysannes qui sont à la fois valorisées et même survalorisées et en même temps dominées. idéologiquement, Bourdieu a rendu très bien compte de ça dans sa classe objet. Donc, et là, cette construction-là va construire une première étape et va être très en phase avec ce que j'évoquais sur ces sociétés paysannes. On a des sociétés paysannes qui sont relativement closes, relativement stables, fermées et dominées. Et on a donc, pendant toute cette Troisième République, on a un projet agricole qui est un projet patrimonial. Il s'agit pour les paysans de devenir des propriétaires dans un système patriarcal, dans un système patriotique. Gambetta disait de même qu'ils sauront défendre les bornes de leurs champs, ils sauront défendre les frontières de la patrie. Enfin, il y a un vrai projet, une espèce de motessie entre la patrie, la petite patrie, le village, et la patrie. Donc, c'est pour vous dire que il y a une vraie construction qui n'est pas seulement une construction sociale, qui est une construction politique du paysan, hein, qui se déploie à travers la Troisième République, avec et au fond, si vous voulez, une très forte concurrence pour faire très vite. Ça se termine quand même avec Vichy, qui en fait le patriote par excellence, hein. Mais avant Vichy, finalement, les républicains font du paysan le républicain par excellence, et les catholiques font du paysan le catholique par excellence. Enfin, il y a des pages sur le cadre rural comme lieu favorable de l'exercice des vertus. Tout ça se rejoint complètement. Enfin, donc il y a une mise à part. Alors le deuxième temps, il va être le temps de la Ve République. Et le temps de la Ve République, à travers ce que je vous disais sur la volonté de moderniser et de faire de la paysannerie le lieu du basculement de la modernisation, sera de construire l'agriculteur moderne comme fer de lance, image avancée du projet modernisateur de la France. Et là encore, on va le mettre aux avant-postes. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie filiation dans la construction politique, dans la construction sociale, pour faire vite, je dirais, d'un certain messianisme paysan dans un premier temps, agricole de l'autre, et qui va jusqu'aujourd'hui à travers tout le discours sur nourrir le monde et faire de la paysannerie finalement le groupe économique, social, qui va sauver l'humanité puisqu'elle va la nourrir. Et donc on a ce déploiement, et bien entendu ce discours toujours un peu complexe, ambivalent, provoque une représentation de la place de ce secteur dans nos sociétés. Et c'est la raison Et ceci nous permet de comprendre assez largement comment ce groupe social, qui est encore une fois de plus en plus éclaté, je vous rappelle que le monde agricole est le secteur professionnel au sein duquel l'éventail des revenus est le plus large, hein, donc, pour illustrer l'hétérogénéité. L'éventail des revenus est le plus large, et en même temps, pourrait-on dire, ils pensent pareil. Si vous prenez les orientations politiques, les représentations de la normalité sexuelle, les appartenances religieuses, les comportements économiques, c'est le groupe le plus homogène, le plus repérable et le plus homogène de la société française. Alors que vous avez, autour de la construction de ce qu'on a appelé des classes moyennes, un éparpillement des comportements. Qui se rendent compte, en gros, de l'éparpillement des comportements au sein de la société française. Ça n'est pas vrai du monde agricole. Et alors, le problème dans le problème, c'est que au fond, la diminution, la trajectoire de ce groupe social, c'est-à-dire sa diminution, l'emporte sur son hétérogénéité quant à son positionnement face au reste de la société. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est sensible au fait qu'il est passé du statut de majoritaire à un statut de minorité. Ceci l'emporte sur le reste. Et c'est vrai que c'est le seul groupe social qui, dans les sociétés modernes, est passé en un siècle, et c'est pas seulement vrai pour la France, d'une majorité absolue, 50% de la population il y a à peu près un siècle, hein, à une minorité parmi d'autres. Et ceci entraîne une sorte d'amère victoire, en quelque sorte, hein, qui se profile derrière tout cela. C'est la raison pour laquelle on a un discours, au fond, depuis presque un siècle, depuis le discours de Méline sur la catastrophe de l'exode rural, jusqu'au discours, mais d'aujourd'hui même, sur le malaise paysan et sa persistance. Si vous reprenez des coupures de presse, il ne se passe, sauf quelques années très, très exceptionnelles, où vraiment là, mais même en 2009-2010, au moment de l'explosion du prix des céréales, où les revenus agricoles ont explosé, on a continué de parler du malaise paysan. Parce que pendant que les céréaliers s'enrichissaient, les éleveurs s'appauvrissaient. Donc, de toute façon, il y a toujours une catégorie dans la catégorie qui va mal. Et on a un lamento petite, à peu près permanente sur le malaise. Vraiment, en tout cas, depuis 30 ans, il n'y a pas une année sans qu'il y ait vraiment un grand... un sujet autour de ça, et la presse en rend très bien compte, Donc, ça, c'est le deuxième sujet. Alors, troisième question, qui est encore plus de la question dans la question. Donc, deuxième question, c'est comment on est passé de la fin des paysans à la persistance d'une question agricole, alors que finalement les sociologues avaient pensé qu'avec la fin des paysans disparaîtraient en quelque sorte ces spécificités, et que le monde agricole, dans les processus de modernisation, s'intégrerait dans ces classes moyennes, en gros, culturellement, etc. Enfin bon, bref. Alors, troisième question importante, c'est que certes, nous avons une diminution des agriculteurs dans les sociétés les plus avancées, mais pour autant, et nous sommes passés dans des sociétés urbaines, nous avons quitté des sociétés rurales et nous sommes des sociétés d'une urbanité généralisée, même dans les villages de France, on est complètement affecté par des modes de vie urbains. Pour autant, ressurgit, c'est le troisième temps, à l'échelle du monde, une question à la fois paysanne et agricole, qui est le paradoxe démographique, selon lequel, oui, nos sociétés sont devenues littorales, urbaines et à dominante urbaine. Pour autant, en valeur absolue, compte tenu de l'explosion démographique, il n'y a jamais eu autant de paysans à la surface de la Terre. Donc, on n'est pas dans une... et de paysans au sens là traditionnel du terme, dans un certain nombre de sociétés. Donc, comment rendre compte de ces phénomènes, d'autant que, si vous avez... dans certaines sociétés, prenez l'Égypte, prenez le sud-est asiatique, une partie de l'Afrique et de la Méditerranée, et aussi de l'Amérique andine. Cette augmentation en valeur absolue du nombre de paysans provoque une autre forme de destruction des sociétés paysannes. À savoir que la croissance de leur nombre provoque une rareté de l'accès à la terre. Et de plus en plus de paysans sur de moins en moins de terres. Les modes d'appropriation des sols, de mise en valeur des sols et aussi de subsistance autour du sol viennent à exploser. C'est le meilleur cas, évidemment, dans cette situation, c'est l'Égypte. Grande tradition paysanne qui, en l'espace de 50 ans, voit, pour des raisons démographiques et d'incapacité des systèmes urbains, industriels ou tertiaires d'absorber le surplus des populations paysannes, ces populations sont comme assignées à résidence et donc provoquent une déstabilisation des systèmes paysans qui étaient régulés par l'exode. Et donc on a à nouveau une question paysanne et une question de fin des paysans qui se pose autrement et qui nous amène à proposer. Et ceci rend compte finalement de cette hétérogénéité dont je parlais pour la France, mais qui vaut pour le monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans ce 21e siècle, on aurait pu penser que finalement, après la décollectivisation, après la décolonisation et après le succès de la modernisation des agricultures familiales de par le monde. Je rappelle que l'année prochaine sera l'année des agricultures familiales. Les colloques commencent autour de ça. Et donc, fort du succès du modèle familial du travail en agriculture, on pouvait faire l'hypothèse d'une sorte de diffusion des agricultures familiales de par le monde. Et en réalité, nous assistons, et nous proposons avec François Purcell, une compréhension de la recomposition des agricultures du monde, du point de vue de l'organisation sociale, autour de trois pôles, qui sont la firme, la famille et la subsistance. Et la firme, parce que finalement, la décolonisation et surtout la décollectivisation, et encore plus la crise financière de 2008, ont provoqué la mise en place de formes d'organisation du travail et du capital, surtout en agriculture, qui sont des formes très financiarisées. Je rappelle au passage qu'en 2008, au plus fort de la crise financière, c'est autour des matières premières agricoles et autour du foncier que l'on a vu de plus de mouvements de capitaux de la City s'orienter. Et donc, on voit se mettre en place des formes d'agriculture sans agriculteurs, pour faire vite. Alors, ceci était une question parce que, véritablement, pour le sociologue, une question commençait à se poser de savoir si véritablement les formes familiales, la place de la famille en agriculture était une sorte d'invariant à travers le temps et à travers l'espace. Et puisque qu'elle soit paysanne ou qu'elle soit moderne, l'agriculture restait familiale. Et ce que on pouvait avancer l'idée que la colonisation et la collectivisation des agricultures avaient été des accidents de l'histoire, mais que finalement l'agriculture, elle était familiale ou elle n'était pas. Bon. Et donc nous avons démonté cet invariant familial présenté comme tel, avec d'ailleurs des travaux qui pensaient que comme il y avait de l'agriculture familiale, y compris moderne en Amérique latine, et qu'il y en avait et aussi en Afrique et aussi en Asie, il y en avait partout, sauf que quand on grattait un tout petit peu et qu'on lisait l'histoire, on s'apercevait que ces modèles familiaux d'Amérique latine ou d'Asie, ils avaient été exportés de l'Europe à travers l'immigration. Donc en fait, si vous mettez l'Irlande sur le continent américain, l'Allemagne au Brésil, et évidemment vous retrouvez des agricultures familiales de type européen. C'est pas une grande découverte. Donc, il fallait remettre tout ça en perspective et mettre en avant l'idée, avec une sorte d'ironie de l'histoire. Vous avez rappelé que j'avais commis un livre qui s'appelle « Du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes ». Et je découvre, au début du XXIe siècle, qu'au nom du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, des pays, des fonds souverains, rachètent 100 000 hectares en Éthiopie, 50 000 au Soudan, 30 000 au Sénégal, pour pouvoir approvisionner son propre pays au détriment des pays dans lesquels ça se passe. Donc on a des espèces de retournements de l'histoire qui, encore une fois, profitent en quelque sorte des processus d'abstraction de la production, de financiarisation de la production, de fluidité, et finalement qui illustre le fait que l'agriculture, comme tous les autres secteurs, est délocalisable, est mobile, est fluide, est abstraite, ce qui n'était pas absolument l'image avancée. Et puis, à l'autre extrême, si je puis dire, le pôle de la subsistance, c'est-à-dire que ceci est répété à l'envi, que parmi le milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, qui sont en situation de précarité alimentaire, il y a 800 000 paysans. Mais sont-ce véritablement des paysans ? C'est-à-dire que ce sont en fait des populations qui ne sont attendues nulle part. Pas plus en milieu rural qu'en milieu urbain, sauf que voilà, ils sont là, ils sont sur place, et ils sont surtout dans une situation de grande pauvreté. Pauvreté en raison d'un non-accès à la terre, mais aussi pauvreté en raison d'une absence de culture technique ou tout simplement d'éducation. Et ces populations participent d'un processus de paupérisation et de sorte d'exclusion de l'intérieur de ruraux qui n'ont peut-être jamais été paysans parce que ça fait plusieurs générations que la chaîne a été rompue, mais qui se trouvent sur place. Et puis des agricultures familiales qui restent évidemment très nombreuses, mais qui sont extrêmement menacées, et c'est ça qui est nouveau, qui se trouvent très menacées et par les processus de financiarisation et par les processus de paupérisation ou de prolétarisation selon certains pays. Et cette approche autour de cette tripolarité permet de comprendre à la fois l'éclatement des mondes agricoles, à la fois la fragilité des agricultures paysannes, leur caractère absolument contingent et historiquement situé, finalement, si je puis dire, remet la sociologie dans l'histoire, ce qu'il fallait à tout prix que je m'efforce de faire cet après-midi. Merci.